Philosophie du vivant, Père Philippe, 8 mai 1984, Saint-Joseph.
Nous allons continuer l'effort au point de vue analyse de la philosophie du vivant pour essayer de préciser la première opération de l'intelligence. Et vous comprenez l'importance de découvrir cette première opération, c'est pour mieux découvrir ce qu'est l'intelligence. La première opération d'un vivant exprime toujours ce qu'il y a de plus caractéristique d'une certaine manière, pas ce qui est de plus parfait, hein, mais ce qui est de plus caractéristique. Et c'est ça l'intérêt, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a de plus caractéristique dans le vivant. Dans la vie végétative, première opération, la respiration et la nutrition, donc l'assimilation. C'est ça qui caractérise le vivant, assimilation substantielle, pour bien montrer qu'on est au niveau de la vie qui est enracinée dans la substance. Alors, quelle est la première opération de l'intelligence? Et on se posera ensuite la première opération de l'appétit, pour essayer de comprendre ce qui caractérise la vie spirituelle, la vie intellectuelle. Alors, nous étions partis, si vous vous souvenez bien, nous allons essayer de découvrir cela, nous étions partis de ce dont nous avons le plus conscience. Tous les philosophes acceptent le point de vue du jugement. Mais tous les philosophes n'acceptent pas l'appréhension antérieure au jugement. Et tous les philosophes ont, quand ils l'acceptent, ont des positions diverses sur ce point de vue-là. Donc, deux problèmes. Premièrement, montrer comment nous avons conscience de ce que c'est que le jugement. Nous avons conscience que notre intelligence est capable de discerner. Le jugement, c'est le discernement. Kritein, on discerne. Le mot grec est très bien. Le mot latin est beaucoup plus malheureux. Parce que jugement, ça fait tout de suite appel à l'aspect du juge. Le jugement, la sentence. Et alors, on est pris du côté beaucoup plus juridique. Ça, c'est toujours le génie latin, hein, qui est beaucoup plus juridique. Tandis que le grec est beaucoup plus proche de la vie, et le jugement, krinein. Krinein, c'est discerner. Un homme intelligent, c'est celui qui discerne, c'est celui qui ne fait pas de confusion. Alors évidemment, on retrouve ça au niveau du tribunal, on retrouve ça au point de vue du juge. Un bon juge, c'est celui qui saura porter une bonne sentence. Il sera, par le fait même, il discernera. Mais vous voyez, le discernement est fondamental et il est comme caché par le point de vue de la sentence et du jugement. Alors, il y aurait une question, là, un petit peu en nota bene, et qui me semble intéressante à voir, quelle différence que saint Thomas fait entre sentence et judicium. Il y a un passage où saint Thomas fait la différence entre sentence, sententia et judicium. Et la sentence, c'est pas la même chose. Et le jugement, c'est différent. Alors, est-ce que saint Thomas fait la même distinction entre proposition? Vous voyez, ça, c'est en nota bene. C'est pour une question de langage, mais qui est quand même intéressante aussi. Il y a l'énonciation, la proposition, la sentence. Je crois qu'on met les trois par là. Les trois sont le fruit de cet acte vital qui est le jugement. C'est-à-dire l'opération intellectuelle parfaite. L'énonciation, c'est un verbe complexe. C'est le mot du verbe. Donc, c'est une forme intentionnelle. La proposition, c'est l'énonciation en tant qu'elle joue un rôle particulier dans le raisonnement. L'énonciation devient une proposition. Et la sentence ultime qu'on porte, la sentence exprime un assentiment. on y adhère à la sentence, tandis que la proposition n'y adhère pas nécessairement. Et je crois que le point de vue de la sentence, c'est justement le point de vue de l'adhésion. Les trois, vous voyez, réfléchissez, énonciation, proposition, sentence. Vous trouvez les trois dans un tabac. Alors, je crois que la sentence implique un consensus, on y adhère. Vous voyez, le consentement, j'y adhère à la sentence. La proposition, pas nécessairement, et l'énonciation non plus. Donc, l'énonciation, c'est ce qu'il y a de c'est le fruit le plus secret du jugement. On énonce. La proposition, c'est quand l'énonciation est en, le point de départ du raisonnement, alors on l'appellera proposition. Et la sentence, c'est quand, justement, il y a le consensus, l'adhésion. On adhère à la sentence. Question de mots, mais intéressant, puisque, comme nous lisons Saint Thomas, il s'agit d'essayer de bien comprendre les différents aspects. Bon. Je disais tout à l'heure que ce que tout le monde reconnaît, la conscience que j'ai de discerner, donc de juger. En jugeant, je discerne. J'ai cette conscience-là. Tout le monde l'accepte. Ma vie intellectuelle, j'ai conscience de discerner telle ou telle chose. Je dis ceci est, ceci n'est pas. J'en ai conscience. Et le discernement et le jugement, dans toute sa simplicité, c'est ceci est, ceci n'est pas. Affirmation, négation. Je vois donc que le jugement, même le plus simple, est double. S'il est double, il ne peut pas être premier. C'est ça qu'il faut bien saisir. Le jugement le plus simple implique affirmation et négation. S'il implique affirmation et négation, ça prouve qu'il ne peut pas être premier. Il implique quelque chose qui n'est pas parfaitement en acte. Il implique une certaine multiplicité, au moins de dualité, puisqu'ils sont deux. Donc il n'est pas premier. L'autre aspect, c'est que ceci est, c'est le nom et le verbe. S'il y a verbe et nom, il y a donc deux aspects. C'est complexe. Tout jugement implique composition et division. Et c'est pour ça qu'Aristote ne cesse de dire « Tout jugement implique composition et division. » Si tout jugement implique composition et division, il n'est donc pas premier, puisqu'il implique une composition. Ce qui implique une composition n'est pas premier. Ça, je crois que nous pouvons facilement le comprendre, hein, dès que nous réfléchissons sur ce que c'est que le jugement. Et ce que représente le jugement est l'énonciation. L'énonciation, ceci est. Hein. Toute énonciation est complexe. C'est pour ça que je dis un verbe complexe. Le verbe matériel, le verbe matériel, pas le verbe ici. Hein. Vous voyez les équivoques, hein, possible. Ça, je crois que c'est élémentaire de comprendre ça tout de suite. Hein. Le verbe intérieur, c'est le concept. Ici, c'est le concept. Ici, le verbe, c'est le point, ce qui exprime l'action. Tout verbe exprime l'action. Nom exprime au contraire quelque chose de substantiel. C'est au niveau grammatical. C'est au niveau du langage. Au niveau du langage, on appelle le nom et le verbe. Tandis que le verbe ici, c'est le verbe complexe qui est le concept. Ça, il faut bien comprendre ça tout de suite. Hein. Il ne faut pas avoir d'équivoque là-dessus. Donc quand on parle verbe, pensez tout de suite ou le verbe au niveau du langage ou le verbe au niveau du concept. C'est pas la même chose. Hein. Bon, alors, comprenons qu'il y a cet aspect complexe du nom et du verbe dans le point de vue du jugement. Qu'est-ce qui est antérieur au jugement? Je peux, selon le langage, puisque le langage est toujours un signe dont je me sers, il y a des termes simples dont la signification est simple. Ces termes dont la signification est simple, ce sont ni des noms, ni des verbes, mais ce sont des mots dont le langage est simple. Par exemple, champ. Par exemple, homme. Et en logique, je dirais que ce sont des prédicables parce que c'est une modalité universelle. Homme, c'est universel. Chat, c'est universel. Et c'est l'espèce. Je pourrais dire aussi blanc. Je pourrais dire aussi rouge. Ce sont des termes simples dont la signification est simple. Alors, quel est le lien? Et c'est là la question qui se pose. Ça, je peux le constater. Je constate, j'ai conscience du jugement, je constate des mots simples, dont la signification est simple. Et au niveau logique, je ramène ça à l'universel. L'universel espèce. Ou l'universel genre, animal. Ou l'universel propriété. Ou l'universel le propre. Ou l'universel accident, blanc. C'est l'universel accident, ça qualifie le mur. Bon, je peux constater les deux choses, mais la question qui se pose maintenant, au point de vue proprement philosophique, c'est de savoir quel est le lien qui existe entre cette opération d'intelligence, qui est le jugement et le discernement, et cette autre opération, dont la signification est simple. Puisque la signification est simple, c'est nécessairement antérieur, puisque l'autre est une signification complexe. Ce qui est simple est nécessairement antérieur. Donc, je peux dire tout de suite qu'il y a une opération de l'intelligence dont le fruit est un verbe simple, exprimé par un langage simple. Je crois que ça, nous pouvons tout de suite le dire. Donc il y a une première opération d'intelligence antérieure au jugement. Cette opération d'intelligence est-elle séparée de la seconde ou est-elle intégrée dans la seconde? C'est là la question. Tous ceux qui ont accepté une opération simple antérieure au jugement ou la considèrent comme séparée du jugement et considèrent le jugement comme tout simplement une addition de plusieurs opérations simples. Occam dit cela. Occam dit que le jugement, c'est tout simplement plusieurs opérations simples, plusieurs appréhensions simples, puisque cette opération simple, on l'appelle l'appréhension. Peut-on dire cela? La scolastique décadente, sous l'influence d'Occam, aura cette tendance. Ou doit-on au contraire considérer comme l'appréhension comme un acte intégré dans le jugement, comme l'élément principal, premier, mais intégré dans le jugement, donc n'existant jamais en dehors du jugement? La question est comme ça, hein. Faut au moins se poser la question avant de pouvoir la résoudre. Faut au moins se poser la question, parce que si on ne veut pas la question, on ne peut pas la résoudre, hein. Donc il faut essayer de bien comprendre la question. Elle s'est posée historiquement. Alors, puisqu'elle s'est posée historiquement, toujours en dépendance avec Aristote, ce sont comme deux herméneutiques de la pensée d'Aristote. Il y a deux manières d'interpréter la pensée d'Aristote. Parce que la pensée d'Aristote n'est pas si facile à comprendre dans le De Anima, livre 3, chapitre 4 ou 5. C'est pas si commode que ça, de bien comprendre ce que représente cette opération simple de l'intelligence, cette opération première de l'intelligence, qui saisit, qui touche, Tingen, qui touche la réalité. Donc voilà, poser la question. Alors comment allons-nous la résoudre, hein? Pour la résoudre, il faut essayer de comprendre le problème de cette signification première liée à ce que représente l'énonciation qui n'est plus une signification au sens propre qui énonce. Donc c'est plus que la signification, ça énonce et ça permet une adhésion de l'intelligence à ce qui a été énoncé. J'adhère à cette énonciation et cette énonciation en tant que j'adhère devient une sentence. Vous voyez, voyez le lien entre les deux. Alors, l'intelligence, dans sa vie propre, est ordonnée à la réalité qu'elle saisit. Qu'elle saisit et qu'elle exprime, qu'elle saisit en l'analysant, puisqu'elle ne la saisit pleinement que dans une composition ou dans une division. Ceci est, ceci n'est pas. Alors, quel est le lien qui peut exister entre ce nom et ce verbe ? Alors, quel est le lien qui existe entre ce nom et ce verbe ? Et le point de vue du prédicat universel, c'est-à-dire du terme saint, universel. Et, au fond, la différence qui existe entre homme et Pierre. Pierre, c'est vraiment le nom. Homme, c'est quelque chose d'universel. C'est un terme universel, comme chat. C'est un terme universel, ou animal. Ça, c'est très, très dif, très délicat à saisir, le lien entre ces trois. Parce que vous êtes en face de trois. Un triangle, le nom, le verbe, et puis ce terme, ce qu'on appelle le prédicable. Le prédicable, l'espèce, le propre. Quel est le lien qui existe entre les deux ? L'intelligence va faire une synthèse, c'est très curieux, la dialectique. Il faut bien saisir ça, parce que c'est très important de saisir ce premier point. Il y a les trois qui sont unis indivisiblement dans le jugement. Dans le jugement, l'intelligence saisit quelque chose, jugement d'existence, ceci est. L'intelligence touche la réalité. Et l'intelligence, pour toucher l'arité, doit nécessairement, dans un premier acte, s'approcher de cette réalité. Elle ne pourrait pas le toucher autrement. Elle doit nécessairement s'approcher, elle donc doit nécessairement s'assimiler ce qui est capable d'être assimilé. Autrement, elle ne pourrait pas toucher la réalité. Il faut qu'elle puisse assimiler d'abord cette réalité, dans la mesure où elle peut l'assimiler, pour pouvoir la toucher. Donc, nous sommes bien en face de cette condition sine qua non pour que l'intelligence touche la réalité, pour que l'intelligence puisse dire ceci est. Il faut que l'intelligence puisse s'approcher de cette réalité, de ce ceci, et saisisse dans le ceci, ce qui est assimilable, c'est-à-dire sa détermination et sa forme. Condition sine qua non, et qu'elle saisisse de la même chose dans le verbe, ce qui est assimilable aussi, autrement elle ne pourrait pas l'affirmer. Voyez, là, j'essaie d'analyser, parce que je ne le constate pas. C'est le fruit d'une analyse. Je constate des termes simples, je constate un jugement. Je constate donc dans le jugement la complexité et je constate des termes simples. Je constate qu'il y a là, dans ma vie intellectuelle, ce qui me permet d'atteindre la réalité. Je ne m'arrête jamais au terme universel. L'intelligence ne s'arrête jamais à l'universel. Quand l'intelligence s'arrête à l'universel, c'est une intelligence qui cérébralise, ou c'est l'intelligence logique. L'intelligence logique demeure à l'universel, ou l'intelligence, quand elle cérébralise, s'arrête à l'universel. Mais l'intelligence, autrement, est faite pour atteindre le réel, la réalité qui existe. Donc l'intelligence ne s'arrête jamais à l'universel, mais elle se sert de l'universel. Elle passe par l'universel. Pourquoi ? Parce qu'elle assimile ce qu'elle peut assimiler. Elle assimile les déterminations essentielles de la réalité. Elle assimile les déterminations accidentelles de la réalité. Elle assimile toutes les déterminations, toutes les formes. Elle les assimile. elle est capable de les assimiler. Et par là, elle s'approche de la réalité et elle peut essayer d'unir ou d'opposer ces diverses formes. Et ce sera l'effort même de l'intelligence dans le jugement d'unir ces diverses formes dans la mesure où on peut les unir. Oui, c'est beaucoup plus complexe qu'on le dit, un jugement. C'est pas simple du tout. C'est très simple de dire ceci est. Pierre est intelligent. Et quand vous essayez de comprendre ce que vous constatez dans le langage, des termes simples et des énonciations complexes, vous dites comment il y a le lien entre les deux? Comment peut se faire le lien entre les deux? Où se situent exactement ces termes simples par rapport à la complexité? Et c'est ça que je crois qu'on doit essayer de saisir. Pour essayer de comprendre que l'opération de l'intelligence n'est parfaite que dans le jugement, mais que l'intelligence implique des éléments antérieurs à cette opération parfaite, et que ces éléments, c'est l'intelligence qui, elle-même, en fait la synthèse. En réalité, ce n'est pas une synthèse, c'est une unité, parce que le jugement implique quelque chose d'indivisible et d'un, et l'intelligence en fait l'unité. Et elle en fait l'unité par rapport à la réalité. C'est la réalité qui rend raison de cette complexité, ce n'est pas l'intelligence. C'est la réalité qui rend raison de cette complexité, c'est toute la différence avec la dialectique. C'est la réalité que l'intelligence saisit qui rend raison de cette union du verbe et du nom, du nom et du verbe. C'est parce que la réalité est que je peux dire ceci est. Et ce n'est pas l'inverse. C'est pas l'intelligence qui unit le verbe et le nom et qui dit donc que je mesure la réalité. Pas du tout, c'est l'inverse. Alors ça fait comprendre le caractère réceptif de l'intelligence par rapport à la réalité. L'intelligence est mesurée par la réalité et c'est la réalité qui lui permet de réaliser cette composition particulière du nom et du verbe. Essayons d'aller un peu plus loin. Je crois que c'est la première chose que je dois faire, voyez, c'est de constater ça et puis de montrer que, en effet, c'est pas du tout impossible de comprendre que l'intelligence va s'approcher du réel progressivement en assimilant ce réel. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir la parenté intérieure entre le nom et le verbe. Pierre existe. Pierre marche. En important, ça. Pierre marche, Pierre est. Le verbe, c'est toujours l'action. Alors, essayons de comprendre le lien qui existe entre le terme simple et le nom et le verbe. Je le constate, mais je dois essayer de comprendre quel est le lien qui existe entre les deux pour comprendre comment l'intelligence est capable de faire cette union. Autrement dit, comprendre comment dans tout nom il y a une détermination et dans tout verbe il y a une détermination. Et que le nom et le verbe sont au-delà de ces déterminations. Que le nom implique une détermination. Pierre implique la détermination homme. Ça, c'est facile à comprendre. Le nom implique une substance, une réalité autonome. Il implique une détermination, que ce soit homme, que ce soit animal. Pierre est animal, Pierre est homme. Donc il y a cette détermination, cette forme que je saisis dans Pierre, qui est homme et qui est animal. Dans le verbe, c'est plus difficile de saisir la forme. Parce que le verbe, c'est beaucoup plus du côté de l'acte. Vous voyez, vous retrouvez les deux aspects de la métaphysique. Hein, la substance et l'acte, le nom et le verbe. Mais vous savez aussi que l'acte ne peut pas être saisi sans qu'il y ait une détermination et un au-delà de la détermination. Donc dans tout verbe qui exprime avant tout le point de vue de l'acte, l'action, dans l'action qui est impliquée de détermination. Pierre marche, c'est-à-dire le fait de marcher. Il est marchand. Marchand implique une certaine détermination, une action ou une passion. Or, action et passion, ce sont des prédicaments. Ce sont des prédicaments. Donc, action et passion. Quand il marche, il est il agit. Quand il tombe, il pâtit. Pierre tombe. Pierre marche. Action et passion. Et action et passion impliquent une détermination, les deux déterminations qui sont impliquées dans le mouvement. Le mouvement, c'est un certain exercice. C'est un exercice, un certain acte. Le mouvement, c'est une manière d'exprimer le point de vue de l'acte. C'est la manière, la modalité ultime de l'acte. C'est le point de vue du mouvement. Donc, tout acte peut se ramener à action et passion. Toujours. Tout acte imparfait, reçu dans un sujet, implique action et passion. Donc, je puis, à travers le verbe, toujours trouver le point de vue de l'action et la passion. Mais le verbe est plus que l'action et la passion, puisque d'une certaine manière, il va exprimer le mouvement. Ou il va exprimer l'existence. Donc il est plus. Exactement comme le verbe, le nom, exprime plus que homme ou animal, il exprime aussi l'homme et l'animal en tant qu'ils subsistent. En tant qu'ils sont un suppôt. On dira un suppôt, c'est-à-dire en tant qu'ils subsistent, en tant qu'ils ont leur autonomie, en tant qu'ils existent numériquement d'une façon individuelle. Alors c'est le nom, comme le verbe. Donc nous voyons qu'à l'intérieur du verbe et du nom, vous retrouvez les prédicaments. Toujours. Vous retrouvez les prédicaments, c'est-à-dire vous retrouvez des termes simples. Les 10 prédicaments, je vous ai dit, il faut les savoir par cœur. Les 10 prédicaments. Alors, vous retrouvez toujours les 10 prédicaments à travers le nom et le verbe. Toujours. Qu'est-ce qui fait donc le lien entre le nom et le verbe? C'est bien les prédicaments dans leur diversité. Et c'est quelque chose qui est au-delà des prédicaments qui fait l'unité. Alors, commençons à mieux saisir comment, dans la vie de l'intelligence, il y a ce premier aspect où l'intelligence s'assimile les formes diverses de la réalité. Les formes diverses de la réalité se ramènent aux 10 prédicaments. Les 10 prédicaments sont les 10 formes diverses de la réalité, telles que je les saisis. Les prédicaments ne sont pas donnés a priori. Les prédicaments, c'est justement le résultat de ma connaissance de la réalité. Toujours, quand je connais la réalité, je ramène cette réalité à 10 formes particulières. Et vous n'en trouvez pas plus, vous avez 10 formes particulières. Avec la seule différence, c'est que le dernier prédicament, qui est Neptus, c'est le fourre-tout, c'est le cafardeur. Vous fourrez tout le temps. Parce qu'après, ça devient très difficile, vous mettez le dernier prédicament tout le temps. Mais vous avez, jusque-là, ça a été très très bien. Et puis le dernier prédicament qui est propre à l'homme, qui fait que l'homme use quelque chose. Vous voyez, c'est le dernier prédicament, c'est par exemple le fait de porter un habit. Le fait de porter un habit, vous modifiez votre habit. Et donc, il y a sur l'habit que vous modifiez et que vous-même vous êtes revêtu, le petit chien qui porte un habit, n'est-ce pas ? On voit très bien qu'il n'est pas tout à fait comme les autres petits chiens, parce qu'il porte un habit. Mais on sait très bien que c'est le propriétaire qui a mis cet habit. Tandis que vous, on ne cherche pas quel est le propriétaire qui a mis un habit, n'est-ce pas ? Sauf le jour de la prise d'habit. Alors à ce moment-là, l'habit vous tombe dessus. Les autres fois, non, c'est vous qui mettez l'habit. Et c'est vous qui utilisez l'habit. Alors, vous usez de l'habit. User de l'habit, c'est un acte humain. Et du fait même que vous usez d'un habit, vous transformez l'habit et vous êtes vous-même transformé. Et alors on veut essayer d'exprimer cet habitus, ce fait d'avoir, d'exercer cette relation particulière avec une réalité qui n'est pas moi et dont j'use. C'est très curieux. C'est ça l'habitus. Oui. Je suis modifié, c'est évident que... nous sommes modifiés parce que nous portons un habit. L'outil est modifié par le fait même qu'on s'en sert. Eh bien, l'homme est modifié parce qu'il porte un habit. S'il porte des souliers, s'il porte des sandales, son pied va pas se développer de la même façon. C'est sûr. Et ainsi de suite. Vous voyez, il y a tout un développement de l'homme qui se fait en fonction de l'habit. Et donc, il y a une modification réelle, pas du tout abstraite, réelle. Ça, c'est l'habitude. C'est le dernier des prédicaments. Et c'est ce prédicament qui est mis tellement en lumière dans la phénoménologie. Toute la phénoménologie repose sur l'habitus. Ça, c'est très curieux. Cet habitus qui avait été cette dernière forme de l'être qui avait été un peu abandonnée, eh bien, de fait, a été remis en lumière dans le vécu. Le vécu de l'habit, le vécu du chapeau, le vécu de la pipe, le vécu des lunettes, le vécu des souliers, le vécu, hein, le vécu. Le vécu qui fera une forme à voir. Le vécu d'une maison, le vécu de l'aliment, le vécu de... Et ainsi de suite, c'est le vécu. Alors le vécu prend une importance énorme dans la phénoménologie. C'est l'habitus. Et on ne voit plus que l'exercice, le vécu. Parce que la détermination est très subtile. Hein. C'est quelque chose de très particulier, le vécu. C'est très spécial, c'est mis en pleine lumière. On l'a thématisé, comme on dit aujourd'hui, on l'a thématisé en phénoménologie. Et c'est très curieux, ça. C'est les choses un peu abandonnées, vous voyez, qu'on a laissé un peu de côté. Parce que dans la philosophie, le dernier prédicament, le dixième prédicament est un peu abandonné. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est que les prédicaments donnent les déterminations particulières de la réalité. Ces déterminations, elles sont saisies par une opération propre de l'intelligence qu'on appelle l'appréhension. L'appréhension appréhende les 10 prédicaments. Ce n'est pas le jugement qui appréhende les prédicaments, c'est l'appréhension. L'appréhension appréhende les 10 prédicaments. Cette appréhension se fait toujours à l'intérieur d'un jugement. Dans un jugement. Donc intégré dans un jugement. Comme une condition sine qua non pour le jugement. Pas de jugement sans appréhension. Mais pas d'appréhension sans jugement. Donc, au niveau existentiel, je ne peux pas les séparer. Au niveau analyse, je les sépare. Je les distingue. Je dis que l'appréhension saisit les formes particulières de la réalité que je puis appréhender. Et c'est pour ça qu'on dira, et que saint Thomas ne cessera de dire, l'appréhension saisit la cuidité. Les 10 cuidités, c'est donné dans les 10 prédicaments. Donc l'appréhension saisit les cuidités, les formes particulières, intelligibles de la réalité. C'est ce que saisit l'appréhension, ça. L'intelligence saisit son bien. C'est pour ça que je reviendrai là-dessus. L'intelligence saisit son bien. Elle saisit son bien, elle se l'assimile. Elle assimile ses formes, qui sont les 10 prédicaments. Et elle les assimile dans un jugement qui implique composition et division. Pourquoi ? Parce qu'elle les assimile dans un jugement. Elle les assimile en saisissant la réalité. Vous voyez, elle réalise de l'intelligence. C'est en touchant la réalité qu'elle assimile. C'est en touchant la réalité qu'elle assimile. Elle assimile la forme et elle touche la réalité. Alors, comme elle assimile la forme, elle assimile les 10 prédicaments. Mais les 10 prédicaments n'existent comme prédicaments que dans l'intelligence. Sont des legetai, pour employer le langage d'Aristote. Hein. Chaque prédicament, il est dit, il est attribué. Donc, il n'existe comme prédicament dans l'intelligence. C'est pour ça qu'il est assimilé. Vous n'avez jamais vu dans la réalité homme. Vous n'avez jamais vu dans la réalité animal. Ça n'existe que dans l'intelligence. Vous n'avez jamais vu dans la réalité habitus. Vous n'avez jamais vu dans la réalité relation. Vous n'avez jamais vu dans la réalité passion et action. Jamais. C'est l'intelligence qui assimile. Et donc, ces formes n'existent comme formes que dans l'intelligence. Parce que c'est justement le fruit d'une assimilation. Mais l'intelligence ne s'arrête pas à ces formes. L'intelligence cherche à connaître la réalité. La science, pour Aristote, ne s'arrête pas à l'universel. La science, pour Aristote, touche le réel. C'est pour ça que dans toujours la science est impliquée. Ça, c'est dit dans les seconds analytiques. La science implique toujours le jugement d'existence. Au sens fort. Parce que la science ne s'arrête pas à l'universel. Donc l'intelligence ne peut pas s'arrêter à l'universel. Elle se sert de l'universel, parce qu'elle assimile les choses, elle assimile les déterminations, et au-delà de l'assimilation, elle saisit le réel. Elle saisit le réel en se servant des prédicaments. Elle saisit le réel en tant qu'il a son autonomie, qu'il est un taudéti. Un taudéti, hein. Il est un taudéti. C'est l'expression pour Aristote. Le taudéti, c'est Pierre. Pierre est un taudéti. C'est Pierre est un taudéti. Il est une réalité individuelle. L'intelligence saisit qu'il y a une réalité individuelle, séparée des autres et qui a une certaine unité. En se servant de homme, elle saisit le taudéti. Donc il y a un dépassement de homme par rapport au taudéti. C'est dans le taudéti qu'elle saisit homme, puisque le taudéti-en-einein, le tien est saisi à partir du taudéti, donc à partir du taudéti. Vous voyez, bon, on retrouve comment l'intelligence saisit le taudéti en se servant de homme. Et l'intelligence saisit le verbe Pierre marche en se servant d'une détermination propre à marche, à marcher, qui est l'action. Et elle saisit à ce moment-là le dépassement des prédicaments dans l'union qui existe entre le nom et le verbe. Et cette espèce d'alchimie très particulière que l'intelligence, ça se fait dans l'intelligence même. Je n'ai même pas conscience de ça, je l'analyse. J'essaie de comprendre la complexité du jugement. Le jugement n'est pas simple. Pourquoi ? Parce que mon intelligence n'est pas intuitive. Alors mon jugement n'est pas simple, il est complexe. Mais psychologiquement, c'est très simple. Ceci est. Quand vous dites à quelqu'un, ah bonjour, c'est très simple. Ah je te reconnais, c'est très simple. Et c'est très complexe. Quand vous essayez de comprendre tout ce qui est appliqué dedans, il y a le dépassement des formes pour saisir l'autonomie du sujet, l'indépendance du sujet et son action. L'acte, la personne et l'acte. Vous voyez ? La personne et l'acte. C'est saisir, et la personne et l'acte, c'est saisir tout simplement un jugement. Dans un jugement, vous saisissez la personne et l'acte. Cet acte, il existe. Cet acte, il marche. Cet acte, il travaille. Cet acte, il dort. Cet acte, il est tombé. Cet acte, il est malade. Peu importe, c'est l'acte. La personne est toujours accompagnée de l'acte. Parce que le nom et le verbe sont indissolublement unis dans le jugement. Je n'ai pas saisi du nom sans le verbe. Et je n'ai pas saisi du verbe sans le nom. Et donc, ils sont indissolublement liés dans un au-delà du prédicament. Les prédicaments sont les formes que je saisis de la réalité, mais ces formes, je ne les saisis jamais à l'état séparé du jugement. Donc, vous voyez, une fois que j'ai saisi ça, c'est assez complexe, mais en même temps, il suffit d'analyser tout simplement les deux données que vous avez. Vous avez deux données. Les prédicaments d'un côté et le jugement de l'autre. Et vous essayez de comprendre le lien qui existe entre les deux. Alors, essayez de voir toutes les combinaisons qui peuvent exister et vous n'arrivez que celle-là. Toutes les autres sont impossibles. Elles ont toutes été essayées, c'est normal. Il n'y a que celle-là qui peut maintenir l'unité du jugement par où mon intelligence saisit le réel et reste mesurée par le réel. et que l'intelligence en même temps saisit quelque chose de ce réel. Vous voyez, la position de Kant comparativement à ça, elle est très intéressante parce qu'elle est très éclairante. Kant dira, il y a des formes a priori, il dit prédicament. Il y a des formes a priori. Et le noumène, je ne connais rien. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que je ne connais rien de la réalité, puisque mon intelligence touche la réalité. Que l'intelligence affirme ceci est. Donc l'intelligence saisit quelque chose de la réalité. Elle assimile certaines formes de la réalité. Les prédicaments ne sont pas des formes a priori. Ce sont des formes que j'acquiers par mon expérience. Ce sont des formes qui viennent de la réalité et que j'acquiers par mon expérience. Et donc, ces formes proviennent de la réalité, mais ces formes ne sont pas la réalité. Il y a un dépassement des formes pour rejoindre la réalité et pour toucher la réalité. Le propre du jugement, c'est de toucher la réalité dans un au-delà des différents prédicaments, dans un au-delà des formes intentionnelles, pour saisir le nom, pour saisir le verbe. Et le verbe et le nom sont saisis à l'intérieur même du jugement, comme ce qui fait l'unité même du jugement et qui caractérise l'opération du jugement. Le jugement ne s'arrête pas à l'universel, il s'arrête au réel. Et c'est ce qui fait comprendre pourquoi saint Thomas nous dit que le jugement, l'objet propre du jugement, c'est l'ipsum esse rei. Ça, c'est l'expression que prend toujours saint Thomas pour montrer que le jugement saisit l'ipsum esse rei. L'ipsum esse rei, vous voyez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, c'est l'exister. L'exister lui-même de la réalité. Voilà ce que saisit le jugement. L'ipsum esse rei. Donc, il saisit l'exister de la réalité. Et pour saisir l'exister de la réalité, il passe nécessairement par les dix prédicaments. Les dix prédicaments sont pas présents dans tous les jugements, hein. Mais tel prédicament, le prédicament substance est toujours présent. Et le prédicament action, prédication passion, prédicament relation sont présents toujours. Et l'unité se fait au-delà des prédicaments, et se fait par rapport à la réalité, par rapport à l'ipsum esse rei. C'est l'ipsum esse rei, donc l'exister de la réalité, qui est source de l'unité du jugement. Ça, il faut y réfléchir là-dessus, parce que c'est une chose extrêmement importante. Mais c'est là où on essaie de comprendre comment l'intelligence est capable d'atteindre le réel. Alors là, je le saisis par mon expérience, c'est bien évident. L'expérience que je fais, ceci est. Quand je rencontre une personne, je lui dis bonjour. Et je sais que je la rencontre. Et je suis capable de lui dire « Bonjour Pierre ». Je suis capable de lui dire ça. « Ah, je te reconnais, c'est bien toi. » Et je ne me trompe pas d'une autre réalité. Donc à ce moment-là, je rencontre quelqu'un. Expliquer la rencontre, expliquer le jugement qui saisit la réalité. Comment expliquer ça ? Comment expliquer d'autre part tout le langage abstrait ? Comment expliquer que de fait, l'intelligence... Mon intelligence est une intelligence qui n'est pas intuitive et qui pourtant est capable d'atteindre la réalité. Alors vous avez les deux positions extrêmes, ou une intelligence intuitive qui saisit la réalité d'une façon exhaustive, ou une intelligence qui s'arrête à l'universel. Il faut poser la position intermédiaire entre les deux. Je dépasse l'universel, mais je n'ai pas une connaissance intuitive. J'ai une connaissance abstraite. Alors c'est là où nous allons entrer dans tout ce phénomène de l'abstraction. Mais je n'ai pas encore parlé. Hein. Maintenant, nous allons entrer dans le phénomène de l'abstraction. Parce que cette assimilation de l'appréhension, c'est une assimilation qui se fait selon un mode abstrait. L'abstraction se comprend au niveau de l'appréhension. L'abstraction ne se comprend pas au niveau du jugement. L'abstraction se comprend au niveau de l'appréhension. Au niveau de l'appréhension, je saisis des formes particulières et je les saisis selon un mode universel. Donc, je les saisis d'une manière abstraite. L'universel est le fruit de l'abstraction. L'universel est le fruit de l'abstraction. Nous continuerons ça la fois prochaine. Alors réfléchissez bien à cela, parce que je crois que c'est très important de saisir ce triangle de base, hein, que vous pouvez constater. Les prédicaments, le nom et le verbe. Et toute ma vie intellectuelle dans sa structure profonde est là. Alors il serait intéressant de voir le parallélisme avec la dialectique. Et le triangle de base. La défense, parce que la dialectique peut se comprendre par rapport à ce triangle de base et par rapport au raisonnement. Parce qu'il y a deux, il y a un triangle de base ici. Le triangle de base qui est justement les prédicaments, le nom et le verbe. Et de voir comment les prédicaments sont dépassés par le nom et le verbe. C'est pour ça que je ne peux pas ramener le jugement uniquement à une addition des formes prédicamentales. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus, le nom et le verbe.